France Culture, il est 12h31. Pardon pour le retard, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. On est usé, on nous parle sans cesse de chiffres, mais nous, ce sont des patients qu'on a en face de nous. Plus de 1000 médecins hospitaliers menacent de démissionner collectivement à partir d'aujourd'hui de leurs fonctions administratives. Si la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'engage pas de négociations sur la crise de l'hôpital.
Suspendu hier à la demande d'avocats en grève, le procès de l'ex-prêtre Bernard Prénat a débuté ce matin à Lyon.
Oui, plus de 30 ans après les faits, l'homme dont les agissements pédophiles passés sous silence par l'Église auront notamment déclenché l'affaire Barbarin en cours 10 ans d'emprisonnement.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, la grande distribution décidément en crise.
Après Carrefour, Conforama, Castorama, c'est au tour d'Auchan de tailler à nouveau dans ses effectifs. Après plusieurs coupes déjà opérées ces dernières années, au total 517 emplois nets vont être supprimés. Le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a quitté Moscou ce matin sans signer l'accord de cessez-le-feu accepté par son rival, le chef du gouvernement d'Union Nationale, Fayez al-Sarraj. Un refus qui illustre la complexité du conflit en Libye et notamment les pressions de tout bord qui s'exercent sur ses protagonistes. Enfin, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes à l'occasion de la publication ce matin du bilan démographique 2019 de l'INSEE, Sylvie Lominez, chef de l'unité des études démographiques et sociales. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
En pleine convention citoyenne sur le climat. Nous recevons dans une vingtaine de minutes la juriste Judith Rochefeld. Son dernier essai porte sur la colère verte. Justice pour le climat, quelles sont les nouvelles formes de mobilisation citoyenne?
Merci et à tout à l'heure. S'il fallait encore se convaincre de l'ampleur de la crise traversée par l'hôpital public, la menace aujourd'hui de près de 1200 médecins hospitaliers de démissionner officiellement de leur fonction d'administration devrait amplement suffire à s'en convaincre. Un geste fort et essentiellement symbolique, car pour ces praticiens, il ne sera évidemment pas question de démissionner de leur principale mission, à commencer par le soin, mais aussi l'enseignement ou bien encore la recherche, mais de ne plus participer à aucune des réunions administratives. Un geste politique, donc, en somme, en l'absence de négociations avec le gouvernement sur les moyens de l'hôpital public. Céline Autain, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette menace d'action collective intervient après une déjà très longue mobilisation des personnels paramédicaux, des services d'urgence. Elle fait suite, par ailleurs, à deux manifestations nationales des personnels hospitaliers. Et pourtant, des gestes ont été accordés. 200 millions supplémentaires débloqués pour 2020. L'État s'est par ailleurs engagé à reprendre le tiers de la dette publique de l'hôpital. Or, selon les professionnels de la santé, eh bien, ça n'est toujours pas suffisant pour stopper l'hémorragie. Pour quelle raison, Céline?
Eh bien, dans la lettre publiée ce matin et adressée à la ministre de la Santé, les médecins font un calcul simple. Le budget de l'hôpital voté en novembre dernier n'augmente que de 2%, quand les charges, elles, sont en hausse de 4%. Il manque 600 millions d'euros à l'hôpital. Alors pour faire face, on leur demande de réaliser plus d'actes en économisant sur le personnel. Marie-Pia Dorto est chef de service à l'hôpital Bichat, signataire de la pétition. Elle constate tous les jours la dégradation de ses conditions de travail.
On est depuis 10 ans, et c'est de pire en pire, sans cesse en train de colmater les brèches, à remplacer, à faire en sorte que tel soin soit assuré, tel poste occupé, telle activité menée malgré les difficultés. Concrètement, il y a des blocs opératoires qui sont fermés. Concrètement, il y a par exemple une IRM à Bichat qui est fermée faute de personnel. Et puis finalement, aujourd'hui, les patients se rendent compte, mesurent les difficultés à travers les délais de rendez-vous qui sont de plus en plus longs et qui deviennent inacceptables pour la prise en charge sans perte de chance pour les patients.
Dans le viseur des médecins, la tarification à l'activité, puis ils réalisent d'actes d'une même nature, moins ces actes sont financés l'année suivante, car ils dépendent d'une enveloppe globale calculée sur l'ensemble du territoire. Cette vision comptable de l'hôpital public, les médecins n'en veulent plus. Ils attendent une réponse de la ministre à leur lettre et l'appellent à agir avant qu'il ne soit trop tard.
Merci Céline Autain. Parce que le gouvernement lui-même a reconnu qu'avec son projet de réforme des retraites, les enseignants pourraient perdre beaucoup. Le ministre Jean-Michel Blanquer a confirmé hier qu'il entendait verser en compensation des revalorisations salariales à hauteur de 500 millions d'euros en 2021. Reste à savoir comment ces revalorisations vont se traduire concrètement pour les enseignants. Concerneront-elles tous les professeurs, en début comme en milieu de carrière, ou bien uniquement ceux nés après 75? Des contreparties seront-elles exigées, comme par exemple une augmentation du temps de travail? Enfin, une dernière incertitude demeure, le ministre n'a confirmé aucun chiffre pour les années venant après 2021. Quoi qu'il en soit, en ce 41e jour de grève contre les retraites et en dépit d'une nouvelle journée d'action interprofessionnelle, l'exécutif qui a su rallier la CFDT et l'UNSA en suspendant de son projet, la mesure de l'âge pivot table désormais sur un essoufflement du mouvement. Et de fait, hier, s'agissant plus particulièrement des transports, le taux de grévistes à la SNCF était de 22,5% chez les conducteurs, soit le plus bas niveau depuis le début des grèves. Alors quand le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, voit le fruit des garanties apportées par le gouvernement aux syndicats dits réformistes, d'autres soulignent surtout l'effort financier fait par les cheminots pour porter cette grève pendant plus d'un mois. Et puis signe que la CFDT, en l'occurrence, est encore loin d'avoir totalement convaincu sa base de stopper le mouvement, la direction des ressources humaines recevra aujourd'hui les cheminots pour discuter d'éventuelles mesures de rattrapage dans le cadre de la réforme à venir. Alors, compte tenu des multiples concessions d'ores et déjà accordées à une dizaine de professions, enseignants, policiers, militaires, pilotes de ligne, marins, danseurs de l'opéra, une question se pose aujourd'hui, à combien se montera la facture définitive du projet de loi sur la retraite à point? Pour l'instant, difficile encore d'y répondre, ce que regrette d'ailleurs Antoine Bozio, il est directeur de l'Institut des politiques publiques, maître de conférence à l'EHESS, joint au téléphone par Marie Viennot.
La contestation a été aussi alimentée par le sentiment d'une absence de transparence sur quels étaient véritablement les objectifs du gouvernement et quels étaient les effets des mesures qui étaient prises. Le fait de ne pas rendre très transparent quels sont les effets redistributifs, qui sont les perdants et qui sont les gagnants de différentes mesures, laisse à penser qu'il y a suspicion que ces effets en fait sont soit très négatifs, soit que le gouvernement ne souhaite pas les montrer. Donc plutôt que faciliter la négociation, ça a plutôt alimenté toutes les craintes, parfois les fantasmes, sur ce que pourraient être les objectifs réels du gouvernement.
Est-ce que ces chiffres sont difficiles à produire, selon vous ?
C'est du travail, mais c'est certain que les administrations qui sont en charge de les réaliser sont non seulement capables de les faire, mais ils les ont probablement déjà faites et ils les ont déjà soumises au gouvernement. Donc être plus transparent, c'est aussi une façon d'arriver à voir de façon plus claire quels sont vraiment les arbitrages qui sont en jeu. Ça ne cache pas des différences politiques et des différences de choix politiques qui pourraient être faites par les uns et les autres, mais au moins que ça se base sur un diagnostic partagé de l'effet possible de différentes mesures.
Et est-ce que la conférence de financement peut servir à faire ça ou ce n'est pas son rôle normalement ?
La conférence de financement, elle est censée arriver à au moins donner une forme d'accord, de compromis sur comment obtenir l'équilibre du système de retraite. Ça serait étrange qu'on puisse obtenir un compromis sans donner à chacun les éléments chiffrés permettant de faire ces arbitrages et des choix de compromis.
Voilà, Antoine Bozio, donc directeur de l'Institut des politiques publiques, il répondait à Marie Viennot. J'ajoute, on vient de l'apprendre, que le taux de grévistes à la SNCF est remonté aujourd'hui avec un quart des conducteurs en grève. Et puis pour clore donc ce chapitre consacré à la réforme des retraites, j'ajoute que cette journée de mardi sera par ailleurs marquée par la reprise des discussions entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Elles concerneront la question de la pénibilité, des carrières longues, de celles des femmes, mais aussi du concept de retraite minimum ou bien encore du travail des seniors et de la gestion des fins de carrière. Suspendu hier par une journée de grève des avocats, là aussi contre la réforme des retraites, le procès de l'ex-prêtre Bernard Prenat a finalement débuté ce matin. Alors juste avant l'annonce de la suspension des débats, l'ex-curé réduit à l'état laïque au terme de son procès canonique l'été dernier a tout de même trouvé le temps hier d'afficher sa contrition face au tribunal plus de 30 ans après les faits. Des agressions sexuelles sur de jeunes scouts âgés de 7 à 15 ans, l'homme s'est présenté d'emblée comme coupable de la douleur des parties civiles. Toujours est-il qu'ayant déjà livré donc ses aveux aux enquêteurs, Bernard Prenat sera sans aucun doute condamné et toute la question est désormais de savoir à quelle peine il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Ce matin avaient donc lieu les premières confrontations entre Bernard Prenat et ses victimes. Compte rendu d'audience au tribunal correctionnel de Lyon, signé de notre correspondante Mathilde Imberti.
Le procès finit donc par débuter avec un jour de retard. En bruit de fond, les manifestations d'avocats, salle des pas perdus, se font entendre. Ils organisent un sit-in.
Et on a écrit sur les murs, Belloubet m'a tué.
Les victimes, elles, ont hâte de s'expliquer. François Deveau est le premier à le faire, cofondateur de l'association La Parole Libérée, engagé sans relâche contre les secrets de l'Église. Ses parents l'ont retiré des scouts immédiatement lorsqu'il leur a raconté que le père Prénat l'avait embrassé en 1990. L'ancien aumônier reconnaît les faits. Sa voix est chevrotante mais bien distincte. Elle porte dans une salle comble. Bernard Prénat se tient droit à la barre, les bras le long du corps, vêtements sombres, chemise bordeaux, des lunettes à monture noire. Sur les actes pédophiles, l'homme de 74 ans dit « Je savais que c'était des actes interdits, condamnables, mais je ne pensais pas aux conséquences qu'ils pouvaient avoir sur les victimes. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre. Sur ses attouchements, ses baisers, ses câlins, je le faisais sans violence, comme des gestes de tendresse dans lesquels je trouvais un certain plaisir. » C'est un instant de vérité. Bernard Prénat, physiquement, se tient à quelques centimètres seulement de ses 10 ex-enfants devenus adultes. François Deveau, avec tout son aplomb, l'affirme. Je vis ici le moment le plus dur depuis le début de cette affaire. Je suis assommé par ces paroles, commente l'ancien prêtre, qui sera confronté dans les heures à venir à l'ensemble des victimes, partie civile à ce procès hors norme.
C'était le 6 janvier dernier, sollicité par plusieurs représentants syndicaux inquiets d'un possible plan de départ volontaire. La direction d'Auchan avait reçu les organisations représentatives sans qu'aucune information n'en ressorte. Et aujourd'hui, c'était au tour de la direction du groupe de distribution, cette fois-ci, de convoquer les différentes instances du personnel. Alors fort opportunément, l'objet de la réunion n'avait pas été précisé. Et pour cause, puisque le couperet est finalement tombé, 517 emplois nets vont être supprimés via un plan de départ volontaire. Les précisions sur place à Léquin, dans le nord, de Lauriane Delanoë.
C'est ce que craignaient les syndicats, un plan de départ volontaire. Auchan veut supprimer près de 680 postes, certains déjà vacants, et le plan prévoit 135 embauches. La direction promet un accompagnement exemplaire des salariés volontaires au départ. Ce sont les services d'appui qui sont concernés, la comptabilité, les services informatiques, par exemple, à la fois pour les activités françaises et internationales du groupe. Elles sont gérées pour l'instant par deux entités distinctes, et Auchan veut simplifier son fonctionnement et ses modes de travail. L'entreprise veut aussi faire des économies alors que les hypermarchés ne font plus recette, de fortes pertes ces dernières années. L'objectif est fixé à près d'un milliard d'euros d'économies d'ici 2022. Et le géant de la grande distribution a déjà commencé. L'an dernier, il a mis en vente 21 magasins déficitaires en France. 10 ont été repris, les autres pourraient fermer.
À Radio France, le 43e jour de grève contre le plan de la direction visant à supprimer 299 postes n'a visiblement pas entamé le soutien et l'attachement des auditeurs pour la radio de service public. France Inter reste la première des radios en audience cumulée sur la période novembre-décembre. Quant à France Culture, la chaîne enregistre un record historique et franchit pour la première fois le cap des 3% d'audience cumulée. Vous êtes 1 625 000 à nous écouter quotidiennement. Face à la contagion terroriste d'une part et la montée de plus en plus perceptible d'un sentiment anti-français d'autre part, les pays du Sahel convoqués à Pau hier étaient appelés à resserrer les rangs autour de l'armée française qui avec ses 4 500 hommes de la force Barkhane soutient à bout de bras aujourd'hui les forces nationales de la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Opération réussie a priori puisque tous les participants ont signé une déclaration commune dans laquelle ils ont non seulement exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel mais aussi appelé au lancement d'une nouvelle coalition antiterroriste. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Alors reste à savoir si ce sommet de la clarification sera suffisant pour briser la dynamique de ces groupes armés qui tout au long de l'année écoulée ont poursuivi leur enracinement local et infligé des pertes sans précédent. La guerre sans fin au Sahel est encore loin a priori d'être terminée, d'autant que parallèlement se pose une question cruciale, Claude. Celle du possible désengagement des troupes américaines qui mènent des opérations conjointes avec les armées nationales contre les djihadistes.
Oui, c'est ce que le chef d'état-major américain, le général Milley, a effectivement évoqué alors que s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles une réunion du comité militaire de l'OTAN. Un désengagement, notamment en Afrique de l'Ouest. Et ça serait une très mauvaise nouvelle, selon les propres termes d'Emmanuel Macron. Parce que cette aide américaine dans la région, elle est vraiment cruciale et surtout elle est irremplaçable. Alors, oui, il n'y a quasiment pas de troupes au sol, mais les Américains amènent surtout une assistance logistique et plus précisément en matière de surveillance. Et cette surveillance, elle est indispensable pour collecter des informations dans ce territoire qu'on sait immense, hein, grand comme l'Europe, avec ses déserts, ses frontières poreuses qui ne peuvent pas être sécurisées et où le renseignement humain est très très faible. Alors la France s'appuie énormément sur cette coopération avec les États-Unis qui dépensent 45 millions de dollars par an au Sahel. Et Washington déploie notamment des drones armés depuis le Niger avec une base à Niamey et une autre à Agadez qui pourrait précisément être fermée.
Alors ce désengagement possible des troupes américaines au Sahel fait évidemment écho, Claude, au désengagement progressif et délibéré des États-Unis un peu partout dans le monde, conformément donc à la volonté du président Donald Trump, ce qui peut paraître assez contradictoire d'ailleurs avec les déclarations volontiers bellicistes du locataire de la Maison-Blanche.
Ouais, Thomas, contradictoire, oui et non, car retirer les troupes américaines de toutes les guerres sans fin, c'est effectivement la promesse de campagne de Donald Trump il y a 5 ans, et cette promesse, elle est toujours d'actualité alors qu'on est en année électorale. En premier lieu, bien sûr, l'Afghanistan, où vous le savez, les Américains sont présents depuis 20 ans, et puis l'Irak. Et vous savez que certains soupçonnent justement Donald Trump d'avoir cherché à créer les conditions d'un retrait des troupes américaines en tuant Qassem Soleimani et en provoquant ce chaos qui a mené le Parlement irakien lui-même à demander le départ des soldats américains d'Irak. L'administration Trump, elle, dit réfléchir à des redéploiements, à des redéfinitions de priorités. La Chine et la Russie, qui sont évidemment bien davantage perçus comme des menaces à Washington que l'Afrique de l'Ouest.
Merci Claude Guibal. On savait déjà fragile l'espoir de cesser le feu en Libye. Dimanche dernier, le gouvernement d'Union nationale et le général d'opposition semblaient pourtant être tombés d'accord sur le projet à l'initiative de la Russie et de la Turquie de mettre en place une cessation illimitée des hostilités. Or ce matin, le maréchal Haftar a fini par quitter les négociations de paix entamées la veille à Moscou en refusant de signer le cessez-le-feu, contrairement d'ailleurs à son rival Fayez al-Sarraj, à la tête du gouvernement d'Union nationale. Les précisions à Moscou de notre correspondant Claude Brouillot.
La diplomatie russe a eu beau déclarer qu'elle poursuivrait ses efforts, le départ du maréchal Haftar, refusant de signer l'accord de cessez-le-feu, n'en reste pas moins un revers, surtout si l'on se réfère au fait que l'homme fort de l'Est libyen avait juste demandé hier soir un délai de réflexion, laissant entendre que dans son ensemble, le texte lui paraissait avoir des connotations positives. Au final, celui que les Turcs disent soutenu par la Russie et les mercenaires du groupe Wagner aurait considéré que le projet ignore de nombreux points et exigences portées par son mouvement sans précisément indiquer lesquelles. Khalifa Haftar fait-il monter les enchères avant la conférence internationale sur la Libye qui doit avoir lieu à Berlin dans 5 jours, ou impose-t-il un autre calendrier qui lui permettrait de reprendre l'offensive armée vers Tripoli? La question est posée par toutes les chancelleries, la russe en priorité, qui doit elle-même reconsidérer le processus qu'elle avait construit en scrutant le théâtre des opérations militaires en Libye afin de voir comment va se comporter celui qu'elle dit toujours ne pas soutenir.
Ne s'épargnant plus aucun coup, 6 candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine s'affronteront ce soir lors du dernier débat télévisé avant le vote très attendu dans l'Iowa. Coup d'envoi de la primaire pour les candidats donc qui espèrent défier le républicain Donald Trump en novembre prochain. Et pendant ce temps, le procès en destitution du locataire de la Maison-Blanche approche. Nancy Pelosi, la speaker démocrate de la Chambre des représentants, doit réunir ses troupes aujourd'hui au Congrès pour fixer le calendrier, ce qui signifie le cas échéant que plus rien n'empêchera l'ouverture du procès du président, le troisième seulement de l'histoire des États-Unis, un procès en destitution historique. Donc, même si, on le sait, les probabilités que Trump soit effectivement destitué par un Sénat dominé par les républicains demeurent extrêmement faibles. Correspondance à Washington, signé Grégory Phillips.
C'est Nancy Pelosi qui désormais fixe le calendrier. Aujourd'hui ou demain, la présidente de la Chambre des représentants va transmettre au Sénat les 2 chefs d'accusation qui pèsent sur Donald Trump. Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. C'est elle aussi qui va désigner les représentants démocrates qui auront le rôle de procureur lors de ce procès qui sera présidé par le premier magistrat du pays, le juge John Roberts, chef de la Cour suprême. Dimanche sur ABC, Pelosi se disait confiante.
Nous sommes certains de notre dossier, certains que ce président mérite d'être mis en accusation, et ce, à vie, quelles que soient les manœuvres du sénateur Mitch McConnell. Nous pensons qu'il y a assez de preuves pour que Trump soit destitué. Les Américains veulent connaître la vérité, et pourquoi les Républicains ont-ils peur de cette vérité ?
Ensuite, le procès en destitution pourrait s'ouvrir rapidement, peut-être dès la semaine prochaine. Pour combien de temps, personne ne sait. Avec quels témoins, les démocrates veulent entendre l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui sans aucun doute sait des choses sur cette affaire ukrainienne. Donald Trump, lui, sait qu'il a très peu de risques d'être destitué. C'est un vote aux 2/3 des sénateurs. Il faudrait qu'une 20aine d'élus républicains décident de lâcher le président, ce qui aujourd'hui paraît hautement improbable.
Invité de la rédaction aujourd'hui à l'occasion de la publication ce matin du bilan démographique 2019 de l'INSEE, Sylvie Leminez, chef de l'unité des études démographiques et sociales. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Alors il ressort de ce bilan qu'au 1er janvier 2020, la France comptait un peu plus de 67 millions d'habitants, 67 millions 64 000 très précisément, soit une hausse régulière depuis 3 ans, ce qui nous place même au deuxième rang des pays européens les plus peuplés après l'Allemagne, sauf que l'augmentation de notre démographie est plus modérée que les années précédentes. Comment l'expliquez-vous ?
Alors l'augmentation de la population française est effectivement de 0,3% cette année comme les deux années précédentes et le rythme est un petit peu plus élevé les années encore précédemment de 0,4%, voire même 0,5% remontant un peu plus haut. L'explication principale de ce ralentissement est que d'une part les naissances diminuent depuis 2015 même si c'est un rythme ralenti et que de l'autre côté les décès augmentent depuis plusieurs années en raison de l'arrivée à des âges où la mortalité est élevée, des générations nombreuses qui sont nées pendant la période du baby-boom.
Avec aussi des phénomènes qu'on observe, canicule, grippe, particulièrement notables en 2019.
Tout à fait. Enfin, chaque année, il y a des épidémies de grippe hivernale qui peuvent être plus ou moins importantes. Cette année, la grippe hivernale a été d'une durée limitée, avec un pic atteint en février, mais une mortalité élevée. Effectivement, il y a eu 2 épisodes de canicule intense qui ont couvert tout le territoire et qui ont touché plus particulièrement les personnes âgées de 75 ans et plus.
Alors, vous l'évoquiez, le nombre de naissances baisse depuis 5 ans. On observe quand même en 2019 un certain ralentissement de cette baisse. Hein. 753 000 naissances en 2019. Ce ralentissement, il est notable hein.
Ce ralentissement est selon nous notable parce que le nombre de naissances diminuait en fait depuis 2015 et à un rythme qui était plus soutenu mais qui les années passant est de moins en moins rapide. Donc ce ralentissement est notable et il est aussi conforté par ce qu'on appelle l'indicateur conjoncturel de fécondité qui se stabilise en 2019 à 1,87 enfants par femme.
C'est ça, donc on a effectivement une stabilisation et nous sommes l'un des pays les plus féconds d'Europe avec un âge moyen de la maternité de 30,7 ans en 2019. Alors, quid de l'espérance de vie, Sylvie Leminez, elle continue à augmenter, mais on observe un certain ralentissement ?
Oui, tout à fait. L'espérance de vie augmente depuis une très longue période. En 10 ans, les hommes ont gagné 2 ans d'espérance de vie et les femmes 1,2 ans. Mais ces dernières années, effectivement, ces gains d'espérance de vie se sont nettement réduits.
Pourquoi ?
Alors, certains analystes, notamment des démographes de l'Institut national des études démographiques, expliquent qu'en fait, il y a eu des gains d'espérance de vie très importants liés au traitement, à la prévention des maladies cardiovasculaires et que les gains à en attendre maintenant sont moindres et qu'en revanche, les gains se situent plutôt du côté de la lutte des cancers qui est devenue la première cause de décès en France et le nombre de décès par cancer continue de diminuer pour les hommes, mais nettement moins pour les femmes.
On notera aussi hein, dans ce bilan que présente l'INSEE ce matin que la France vieillit de plus en plus. Au 1er janvier 2020, une personne sur 5 en France a 65 ans et plus, mais ça n'est pas une spécificité française.
Non, absolument pas. Le vieillissement s'observe dans tous les pays européens. Il est lié très naturellement à l'augmentation de l'espérance de vie. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui est plus conjoncturel et qui consiste à accentuer le vieillissement de la France. C'est toujours ces générations nombreuses du baby-boom qui arrivent maintenant à des âges de 65 ans et plus et qui contribuent à faire vieillir plus rapidement la population française.
Alors, dans cette enquête, hein, il y a aussi un focus plus particulier sur les familles monoparentales et recomposée. En 2018, près de 3 enfants sur 10 vivaient avec un seul de leurs parents, que ce dernier se soit remis en couple ou non. C'est plus que les années passées ?
Alors, c'est un petit peu plus que les années passées, mais en fait, on n'a pas beaucoup de points de comparaison parce que ces chiffres que vous citez ont été permis par l'enrichissement, la rénovation du questionnaire de l'enquête annuelle de recensement qui a lieu en 2018 et on a un point de comparaison avec une enquête qui avait été faite en 2011. Donc, on voit l'évolution entre 2011 et 2018. Il y a autant de familles qui sont recomposées, c'est-à-dire qui sont constituées d'un couple qui a soit un enfant d'une union précédente précédentes, soit des nouveaux enfants ensemble. Et ça, ces familles recomposées, il y a 7% des enfants qui vivent dans ces familles. Donc c'est à peu près la même proportion qu'en 2011. En revanche, le nombre d'enfants vivant en famille monoparentale a augmenté depuis 2011.
Merci Sylvie Leminez, chef, je le rappelle, de l'unité des études démographiques et sociales, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne-Laure Jumet. On termine avec un mot de météo cet après-midi. De la Bretagne, des Pays de la Loire et du Poitou à la frontière belge et la Lorraine, le temps sera souvent gris et pluvieux. De fortes vagues devraient par ailleurs déferler sur les côtes atlantiques. Sur les régions méditerranéennes et la moyenne vallée du Rhône, la journée s'annoncera là aussi plutôt maussade. Partout ailleurs, en revanche, le soleil réussira à s'imposer. Quant aux températures, elles afficheront en général entre 9 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.